Lui, à rencontre, il sera question d'un cardinal qui a été très, très aimé. Malheureusement, on le connaît moins ici, c'est le cardinal Saliège. On en parlait beaucoup dans les années 40-50. C'était un homme exceptionnel qui est mort en 1956, un 5 novembre. Le cardinal Jules Géraud, curieux prénom, hein, Géraud, G-E, accent aigu, R-A-U-D. Jules Géraud Saliège, qui était archevêque de Toulouse dans le sud de la France, mais qui venait de l'Auvergne. Il est né en 1870, il est donc mort à 86 ans. Il a laissé derrière lui le souvenir d'un des plus grands cardinaux, des plus grands évêques, tant sur le plan du courage, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de l'amour des plus pauvres ou de ses prêtres, sur aussi cette façon qu'il avait de parler qui était directe. Je prends un petit texte du cardinal Saliège, alors qu'il était Monseigneur Saliège en 1937. Il écrit, je lis quelques lignes, « À qui appartiennent les armes? À Dieu seul. Nul ne peut par conséquent les engranger, les domestiquer et, sous prétexte de les servir, les asservir. Nul ne peut dire le terrain réservé et ceci est à moi. Dieu a un souverain respect de la liberté des âmes. Il propose, il sollicite, il ne contraint jamais. À son service, il ne veut que des volontaires. Et plus loin, il dit, rien de plus triste au monde qu'une âme enchaînée. Qu'elle le soit par une œuvre, qu'elle le soit par une personne. L'unique, c'est Jésus-Christ. Les autres sont des suppléants interchangeables dont on pourrait se passer souvent, dont on peut se passer la plupart du temps. Se croire nécessaire à une âme, c'est l'illusion de l'orgueil humain. Que Dieu nous en préserve. Je lis ça dans les écrits spirituels du cardinal Saliège, paru chez Grasset en 1960. Ce sont des textes recueillis et présentés par Mgr Garonne, son successeur, Mgr Gabriel Garonne. C'est que le cardinal Saliège a joué un rôle exceptionnel en France. Il a accueilli les réfugiés politiques. Oui. Et il a protégé, comme le pape Pie XII, les Juifs persécutés pendant l'occupation. Le cardinal Saliège a toujours été soucieux de défendre les valeurs spirituelles et humaines. Il allait à l'essentiel. Il était dans la ligne, on pourrait dire, des pères de l'Église. Tellement il était remarquable, oui. Il a été, en effet, tout en même temps, là, un vrai pasteur, un vrai docteur, préoccupé de penser son action. Et cette universalité de son esprit, au cardinal Saliège, ça explique la séduction qu'il a exercée et qu'il continue encore d'exercer sur bien des gens, même aujourd'hui, oui. Sur des prêtres, des laïcs, qui ont la chance aussi de l'avoir connu ou de l'avoir lu. Et moi, il m'avait beaucoup impressionné. J'avais 30 ans quand il est mort. Il m'impressionnait énormément. Ses écrits spirituels, d'ailleurs, révèlent le secret de cet homme qui était un mystique. Et comme Saint Paul, Mgr Saliège avait le sens de l'universel, on peut dire que sa doctrine spirituelle est construite à partir d'une expérience. C'est une expérience, c'est pas simplement des livres, c'est pas simplement extérieur à lui, non. C'est une expérience. Sa mystique est à la fois réaliste et sans illusion, et sa manière spirituelle ressemble à sa manière d'écrire. Hein. Il écrit de façon très particulière pour un cardinal, surtout à cette époque. Un style simple, direct et vrai. La personnalité du cardinal Saliège, d'ailleurs, est entrée dans l'histoire, et même dans la légende, en France en particulier, et dans certains endroits dans l'Église où sa mémoire est conservée. Il y a un ouvrage considérable qui lui a été consacré dès l'année après sa mort, en 1957, déjà 350 pages, ont été publiés par Jean Guiton. C'est pas le dernier venu, Jean Guiton. C'est le plus éminent, peut-être, des laïcs qui écrivent quoi que ce soit en France actuellement. Il a plus de 90 ans. Son livre s'intitule simplement « Le cardinal Saliège ». C'est paru donc en 1957 aux éditions Grasset. Et je m'y réfère, je l'ai lu passionnément, passion en fin de semaine, c'était extraordinaire. C'est donc un ouvrage considérable, celui de Jean Guiton. Et Jean Guiton a voulu fixer, il semble bien, avec bonheur. Car, même si je ne l'ai pas connu, ce cardinal Saliège, on vient à le connaître et à l'aimer grâce à Jean Guiton. Je crois qu'il lui a été fidèle et le connaissait bien. Il a expliqué ce que pouvait être cette existence d'un homme exceptionnel. Parce que cette âme d'évêque est si étroitement liée à Jésus-Christ, à son Seigneur, que c'est dans la foi et l'amour que l'on trouve la clé de tout ce qui reste et qui le fait vivre, une vie de feu. Jean Guiton en a fait donc une biographie brillante, honnête, pénétrante, que je vous recommande si vous pouvez la trouver dans une bibliothèque ou dans un bazar quelque part. La fermeté peu commune de la pensée puis du langage du cardinal nous est restée grâce à des sténographies pendant qu'il parlait. Il y avait beaucoup de sténographies. Aujourd'hui, on enregistre, c'est plus simple. Et il y a là une richesse spirituelle d'une valeur et d'une pureté exceptionnelle. Ça vient d'une longue application personnelle de cet évêque, une fidélité profonde à la parole de Dieu. Et enfin, on le voit bien quand on lit sa vie et ses écrits spirituels, d'une vie d'oraison très intense. C'est une existence étrange que celle de cet Auvergnat, centre de la France dans les montagnes, là, né pendant la guerre de 1870 en France, un peu avant que la République soit proclamée, après ils avaient eu des rois pendant un certain temps. Il est né à Crouzy-le-Haut, je le signale pour ceux qui viennent d'Auvergne et qui m'écoutent et qui connaissent l'Auvergne. C'est près de Mauriac, oui Mauriac, comme le nom de ce François Mauriac et de Claude Mauriac, dont je présenterai une entrevue dimanche prochain au Centre Unitas, dans l'après-midi. C'est donc dans le Cantal, hein? C'est sur un plateau d'où l'on découvre des paysages, là, du Haut-Limousin. C'est très beau dans cette région. Et dans la Haute-Auvergne vont s'écouler 50 années de son existence, ou 50 années. Il va être là 50 ans. Ça le prépare aux grandes tâches de la ville de Toulouse, où il sera évêque et cardinal jusqu'en 1956. Si vous avez en main le dernier numéro de la fameuse revue Géo, il y a un très bel article sur la ville de Toulouse, cette ville rose. La vie du cardinal Saliège se dresse devant le monde comme une croix. Il l'avait pressenti au jour de son sous-diaconat. Cette croix va prendre la forme de la paralysie de son corps. Il va devenir paralysé. Tragique pour un cardinal. Et il va souffrir énormément de sa patrie, la France, qui va être occupée par les Allemands durant la guerre, comme chacun sait. Et ce qui aurait terrassé à peu près n'importe qui, mais ça donne à cet homme, comme on l'appelait Saliège, tout simplement souvent, sa vraie dimension, une dimension universelle. Cette croix dans sa vie forge son caractère et donne à sa doctrine spirituelle la trempe de l'acier, comme dit Monseigneur Garonne. Est devenu cardinal, il simplifie ses armoiries, hein, parce que les évêques ont des armoiries. Comme il avait simplifié d'ailleurs son style, petit à petit, sa spiritualité, seule la croix demeure sur ses armoiries, toute simple comme lui. Pourtant, cardinal de la Sainte Église, prince de l'Église, comme on disait dans le temps, hein, mais lui était beaucoup plus simple que ça. Pour découvrir l'expérience spirituelle qui explique la densité de sa vie, il faut suivre l'itinéraire de ce jeune Jules Géraud Saliège. Je simplifie beaucoup. Il a été formé par sa mère. Oui, il y avait une vraie mère. Une femme exceptionnelle, au travail austère, à la piété profonde. Oui, piété profonde. En 1899, il a terminé ses humanités, comme on dit, son cours classique à 19 ans. Il se rend à Paris, au séminaire de Saint-Sulpice, pour devenir prêtre. Il gardera toute sa vie, d'ailleurs, une grande reconnaissance à certains de ses maîtres. Il disait qu'il lui avait appris à conduire une communauté par la lecture spirituelle, c'est-à-dire une conférence spirituelle tous les jours pour vraiment nourrir ceux dont il sera responsable. Il doit à ses sulpiciens l'amour des prêtres. La grande passion de sa vie, c'est l'amour des prêtres, mais aussi l'amour des plus pauvres, des plus petits. Il reçoit à Saint-Sulpice l'influence de ce qu'on appelle l'école française, dont je vous ai souvent parlé en parlant des grands maîtres de l'école française, en particulier Jean-Jacques Ollier. Ça marque sa doctrine spirituelle, et à Paris, les idées l'attirent. Les idées l'attirent, mais le monde parisien lui déplaît. Il est auvergnat, c'est un homme simple. Il lui préfère donc son diocèse, auvergnat, et les ministères humbles. Peut-être aussi qu'il préfère la force de ces paysages calcinés de l'Auvergne et la solidité de cette race, comme on ose dire à l'époque, la race auvergnate. On dit plus ça, la race. Il aime l'enseignement dont il est chargé. Oui, parce qu'il est nommé responsable du grand séminaire. Il aimait les contacts des hommes, élèves et maîtres, qu'il subjugue par le regard, par le ton, par l'action, par la vie. Il enseigne au grand séminaire, donc ce grand séminaire construit sur un sol solide là, à Saint-Flour, au moment du modernisme. Vous savez, la crise de la théologie moderniste qui semble vouloir jeter des grands pans de la pensée chrétienne, qui semble, je dis bien, sans jamais rien sacrifier de l'essentiel, il prend résolument parti pour le progrès, lui. Et il dit, comme Jean 23, « Portes et fenêtres largement ouvertes sur l'avenir ». Il répète ça souvent, « Portes et fenêtres largement ouvertes sur l'avenir ». C'est une expression qui lui est chère, hein. Et il dit souvent aussi, « Nous étouffons dans nos églises, qui sont pourtant souvent déserte. Nous voulons le forum, en d'autres termes, pas le forum comme on l'entend à Montréal, le forum dans le sens d'une place publique. Nous voulons la place publique, nous voulons être entendus. Nous voulons pas être réduits à nos sacristies, quoi. Et le modernisme, qui a été un peu dangereux pour l'Église, ne semble pas avoir exercé de ravage parmi les Auvergnats, qui sont des montagnards au cœur de la France. Saliège a su séparer, lui, le bon grain de l'ivraie. Il était cependant trop connaisseur de la pensée du cardinal Newman, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. On appelle ça un newmanien, il était trop newmanien, pour ne pas savoir que les choses changent. Oui, les choses changent. La foi lui paraissait, a-t-on dit, semblable à la vie elle-même. La foi, c'est vivant, hein. Qui, dit-il, sans se détruire, revêt des formes variées suivant les conditions qui lui sont faites. La foi, disait-il, demeure toujours reconnaissable à travers ses multiples changements. Alors, le modernisme l'aura servi dans un sens, parce qu'il y prend conscience, lui, des rebondissements de la science qui vont mettre son esprit en éveil jusque dans les dernières années de sa vie. Alors, devenu supérieur du grand séminaire, Jules Giraud-Saliège se concentre, il forge sa doctrine spirituelle qui doit former les futurs prêtres et sa spiritualité qui est nourrie de la théologie de Saint-Paul puis des exercices de Saint-Ignace de Loyola est très solide, ce qui permet des audaces, et ces audaces, sans cela, seraient de la témérité. Hein. C'est un homme qui est synthétique, il est mystique, il est inflexible, persuasif, pittoresque, clair et passionné, dit Jean Guiton, et soucieux de l'essentiel en rejetant ce qui est obscur et inutile. Et ses lectures spirituelles, ou ses conférences spirituelles, si vous préférez, le soir, là, sont dans la vie monotone de ce grand séminaire, l'heure attendue de la journée, où souvent un événement, là, durant la journée, va lui fournir le sujet du jour. Et il est déjà l'homme de la vie. Il n'est pas l'homme du livre. Le livre l'intéresse. Il y trouve une présence. S'il lui permet quoi? de trouver son propre chemin. Et à Saint-Flour, le chanoine Saliège dirige à la fois le séminaire et aussi le Carmel. Ce sont deux formes contraires d'existence, et ça l'attire à la fois, puis ça répond à sa nature la plus profonde. Ah, il y a toute une correspondance avec le Carmel qui est merveilleux. C'est une pièce maîtresse de son œuvre spirituelle. Saint-Flour, donc en Auvergne, où il passe la moitié de son existence, représente le temps de l'approfondissement. L'approfondissement, oui. La maturation aussi dans le travail personnel, silencieux. C'est le temps aussi des oraisons prolongées avec Dieu, dans le silence. Cette longue période de vie, on pourrait dire recluse, mais d'acquisition, a exercé une action déterminante sur l'orientation du cardinal Saliège. À Gap et à Toulouse, il va être évêque de Gap pendant quelques années à peine, et à Toulouse, où il sera évêque, archevêque et cardinal très longtemps, il va vivre de ses provisions spirituelles qu'il aura acquises. Il va puiser dans ce capital, qu'on pourrait dire, qu'il a engrangé dans son âme à Saint-Flour. Le chanoine Saliège a 55 ans quand, en octobre 1925, il est nommé évêque de Gap, diocèse où, comme je vous ai dit, il ne fera que passer, puisque 3 ans plus tard, il va se fixer à Toulouse, qu'il va marquer pendant un quart de siècle. Il sera archevêque, donc, de Toulouse, puis cardinal. Voici ce que Mgr Saliège dit à ses prêtres à Gap le 27 mai 1926. C'est dans ses écrits spirituels. Vous n'êtes pas seul. Je lis ça pour les prêtres qui m'écoutent, pour les séminaristes, ou pour ceux qui se sentent appelés à devenir prêtres. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un confesseur, un directeur. À vous, il faut une spiritualité de lutte. Saint Ignace, beaucoup plus que les bénédictins. Moi qui suis oblat de Saint-Benoît-du-Lac. Mais c'est vrai que dans un sens, un prêtre ne doit pas avoir une âme de bénédictin. Vraiment pas. Ben, dans un sens, oui, pour la liturgie, si on veut. Mais il faut qu'il ait une âme de soldat. Hein? Saint Ignace, beaucoup plus que les bénédictins. Il ajoute la spiritualité bénédictine délicieuse, vaut pour le cloître, ou peut-être pour les gens seuls comme moi. Elle demande, pour être intégralement vécu, le cloître bénédictin. Il ajoute en dehors de ses conditions, elle offre les écueils de vertus imaginaires et des contemplations de complaisance qui n'aboutissent pas à l'action. Il est sévère. C'est un homme moderne, hein? Je vous le lis, même si je suis très attaché aux bénédictins. Il ajoute, « Aimer, c'est se renoncer pour dire oui à toute volonté divine. » Il ajoute, « Lisez la vie d'un saint. » Comme j'aime cette parole, « Lisez la vie d'un saint. » Mettez-vous à réciter et à vivre le Pater Noster par la prière pure, prolongée et par la fidélité. Supprimez les visites en ville et dans la maison. Se visiter les uns les autres dans une maison. Là. Vous en revenez en général moins recueilli, moins disposé au devoir d'État, à son obscurité. Au bout de quelques jours, vous sentirez renaître, ou plutôt revivre l'homme qui n'est pas mort en vous, qui ne peut pas et ne veut pas mourir, l'homme selon le Christ Jésus, le prêtre de son cœur. En somme, ça prend de la solitude en même pour ce... Se nourrir, hein? Jules Géraud Saliège est enraciné dans sa terre natale comme dans la terre de sa foi. Il était humain, avec une exceptionnelle ouverture, dit-on, et un sens non commun de l'accueil. C'est un solitaire qui aime la foule. Il aime rencontrer ceux qui ne pensent pas comme lui. Il ne refuse jamais de recevoir quelqu'un. Il a toujours une prédilection pour les universitaires catholiques qui enseigne dans ce qu'on appelle l'enseignement public, c'est-à-dire dans l'enseignement laïque. Et il les considère comme à l'avant-poste, si on peut dire. Il insiste sur cette qualité humaine chez ses prêtres. Voici ce qu'il leur dit. Il faut que les explications partent de l'humain, de l'homme, de ce qu'il désire, de ce qu'il veut. de ce qu'il atteint. Il faut l'aider, l'homme et la femme, à prendre conscience de tout ce que Dieu a mis en lui de désirs inassouvis pour l'amener à la douce lumière et au parfait bonheur de la foi. Alors au départ, cet amour de l'homme est enraciné en Dieu, dans ce qu'il appelle évidemment la vie théologale, dans le mystère du corps mystique et de la Trinité. Il y a une grande doctrine spirituelle profonde et très catholique. Ces vérités de la foi éclairent et guident la charité du cardinal Saliège, son amour du peuple qui souffre, particulièrement durant la guerre. Et pensons actuellement à ceux qui souffrent en Amérique centrale actuellement. C'est tellement épouvantable ce qui arrive. Le peuple qui cherche... La masse des gens, croyants ou non, il les aime. Et ce bon peuple de pauvres et d'ouvriers a senti l'amour du cardinal Saliège. À Toulouse, il était le père de tous. La chose était visible le jour de ses funérailles en 1956. Il avait 86 ans quand il est parti. Et la foule l'aimait. D'ailleurs, déjà à Saint-Flour, en 1905, on recule de 50 ans, quand il avait 35 ans, dans un discours programme qui a fait sensation, il prend le parti des exploités, puis il déclare, il y a dans cette ville de nombreuses ouvrières qu'un gain trop modique ne met pas à l'abri de misères qu'entraînent la maladie et le chômage. Là, il interpelle les catholiques de Saint-Flour, il dit, où sont vos syndicats de l'aiguille, pour aider ces ouvrières, les couturières, qui travaillent dans des, comme celles qui travaillent aujourd'hui dans des usines, où on fabrique des vêtements, c'est souvent très mal payé. Et on trouve dans la harangue du cardinal Saliège, on trouve en germe l'action, puis même le style du futur cardinal. S'il va au peuple, c'est en missionnaire de Dieu, comme celui qui est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, Jésus. Il sait comment vaincre cette espèce de coupure affreuse qui existe entre l'Église et le bon peuple. À Toulouse, il visite secrètement les pauvres à domicile, dans les quartiers populeux de Saint-Cyprien. Il y va incognito. Il a compris d'instinct que l'Église doit être présente au milieu des petits. Il a admiré un abbé Lemire pour son action sociale. Il a appuyé fortement le Sillon, visité, aimé, applaudi Marc Sangnier. Vous savez qu'il a été, ça a été condamné, ça. Vous vous souvenez peut-être d'Henri Guillemin à la télévision qui nous avait parlé longuement de Marc Sangnier. Il a accueilli à Toulouse les réfugiés espagnols. À cause de la guerre dans les années 30. Il a organisé l'aumônerie des camps de travailleurs étrangers. Il connaît les réfugiés d'honneur aussi, qui sont traqués pour leurs convictions, qui ont de l'honneur. Il suffira qu'on lui parle du camp de Recebedou, d'où les Juifs sont amenés, maris et femmes, parents et enfants, séparés vers la gare, où les attendent les wagons de marchandises, pour que Monseigneur Saliège, écoutez bien, écrive la lettre de protestation lue dans toutes les églises du diocèse, lettre qui est diffusée par la radio anglaise et qui fait le tour du monde. Il aime les pauvres, parce qu'il est demeuré, comme on dit, peuple. Vivant pauvrement, oui, il vivait pauvrement, comme les petites gens. Il était économe, un cardinal, strict dans ses dépenses, fidèle avec rigueur aux vœux de pauvreté librement consentis. Quand il parle de pauvreté à des moniales ou à des retraitants, il parle, lui, en connaissance de cause. Il a vécu, d'ailleurs, la pauvreté quand il était jeune, puis il la vit toujours. Il aime ses prêtres aussi. Et il a trouvé la plénitude dans la tâche de supérieur du grand séminaire, on pourrait dire. Il continue à en diriger un, d'ailleurs, tout au long de son épiscopat, parce qu'il y a toujours un grand séminaire dans ces diocèses-là. Hein. Nous avons la chance, d'ailleurs, de pouvoir lire des lettres de direction qui montrent bien la manière virile et sûre. Le jour de ses noces d'or, il a pu dire à ses prêtres, « Vous ne serez que dans l'éternité comme je vous ai aimé. Vous êtes mon perpétuel souci, travail, fatigue, c'est pour vous. » J'imagine que ces prêtres devaient avoir les larmes aux yeux d'entendre leur évêque les aimer autant. Et il aime les contacts aussi de ceux qui lui apportent un air nouveau, qui lui permettent de respirer à sa vraie hauteur, puis de se trouver lui-même. Il pouvait fustiger en public, mais il aimait toujours ceux auxquels il faisait des reproches. Il leur montrait son affection, dit Jean Guiton. C'est une grande qualité qu'il avait. Une qualité de cœur, de foi, de conscience. C'est un homme profond. Et aujourd'hui, il est question d'un homme qui me réjouit le cœur, le cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, qui était un mystique. Et un homme d'action, et un homme près des gens simples, et un homme direct. Il n'a pas laissé de journal intime. Il nous a laissé des écrits dispersés, qui témoignent, heureusement, d'une unité merveilleuse, d'un équilibre spirituel où il y a de la joie, où il y a aussi la croix. Et la joie et la croix s'enlacent dans ces textes. On retrouve non seulement le style du cardinal, mais aussi son itinéraire. Il dirige ses correspondants, on voit ça dans les lettres, comme il dirige son diocèse. Il porte toujours le doigt où? Sur l'essentiel. Il fait bénéficier la personne à laquelle il s'adresse des progrès et des simplifications de sa propre vie. C'est Jean Guiton, dans ce beau livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, paru en 1957, l'année après sa mort. Jean Guiton qui a écrit 350 pages admirables. Il avait déjà écrit Monsieur Pouget, dont je vous ai parlé quand j'ai fait l'émission sur Monsieur Pouget. Eh bien, il a écrit cette autre biographie fantastique. Et c'est Jean Guiton qui écrit, dans cette biographie du cardinal Saliège, la constatation la plus frappante, presque extraordinaire, est l'absence totale, dans les papiers du cardinal, de toute notation personnelle au sens strict et courant du mot. Pas une ligne, pas une demi-ligne, que le cardinal ait écrite, lui qui a tant écrit, comme se parlant de lui-même à lui-même. On s'attendrait à ce que, s'il ne l'a pas fait par goût de l'analyse, il l'ait fait au moins par instinct de réflexion ou d'examen spirituel devant Dieu. Non, rien. Rien, dit Jean Guiton. Et la clé, selon Jean Guiton, est que le cardinal Saliège est tout entier au moment présent. Ce qui est vrai des rapports avec les autres doit être également vrai de ses rapports avec Dieu lorsqu'il est face à face avec son Seigneur. D'ailleurs, Guiton ajoute, le cardinal priait très facilement, très simplement, très profondément. Cela tient à une vigueur et une simplicité de foi absolument accordée et harmonisée à la vigueur et à la simplicité de son être toujours intégralement ramassé dans l'acte du moment. On pourrait dire que c'est un existentialiste dans un sens, parce que seul le moment présent compte. Hein? Ce qui est passé, puis ce qui n'est pas arrivé, n'est pas arrivé. Vivons le moment présent, c'est là qu'est la rencontre de Dieu et la sainteté. Hein? C'est ce que disent les saints. Je vous répète ce qu'ils disent. Qui suis-je pour le dire, moi? Et spirituellement, le cardinal Saliège devait beaucoup aux exercices de saint Ignace. Il a aussi une profonde admiration pour sainte Thérèse d'Avila, en qui il se retrouve. Il admire en elle l'exceptionnel mélange de sens mystique puis de sens pratique, hein? Cette femme de cœur et d'esprit qu'est Thérèse d'Avila, qui sait avec la même adresse là, décrire des états intérieurs comme elle l'a fait. C'est une mystique qui décrit ses états intérieurs de façon fantastique et qui sait débrouiller les affaires les plus enchevêtrées dans le concret. Elle fonde des monastères et elle en fonde, elle administre tout ça. Un d'action qu'est le cardinal Saliège, une vocation contemplative inassouvie au fond, parce que le Carmel de Saint-Flour, dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont il s'est occupé à Saint-Flour en Auvergne, est resté tout au long de sa vie le jardin de son repos, et comme la patrie son âme profonde. Il y goûte la détente au milieu de cette communauté rassemblée. À chacun de ses voyages, là, il retrouve les carmélites à la grille de la clôture. Une grande joie fuse dans une communion d'âmes qui se retrouve d'ailleurs dans les lettres qui nous sont restées de tout ça. Puis il aime saint Paul aussi. Il aime saint Paul. Oui. Saint Paul qui le séduit par son sens cosmique, son sens de l'universel, que l'on retrouve d'ailleurs dans Théard de Chardin, sa mystique à la fois réaliste et sans illusion. Ah, puis la théologie de Saint Paul, qui est construite à partir d'une expérience spirituelle, ça lui plaît. Son discours de réception à l'Académie des Jeux Floraux est consacré à l'expérience mystique. Il faut le faire, parler de l'expérience mystique, lui, le cardinal, à sa réception à l'Académie des Jeux Floraux. C'est superbe. Il donne du mystique une définition fantastique. Écoutez bien ça. Nul ne ressemble plus à l'artiste. Nul n'étreint mieux le réel, ne l'embrasse plus pleinement, je prononce le mot, qu'un grand mystique. Et le cardinal Saliège ajoute, je sais que ce mot doit à ses origines mêmes quelques-unes des maladies qu'il a contractées à travers les âges et dont il n'est peut-être complètement guéri. Mystique est un doublet de mystérieux. Il désigne primitivement quelque chose de caché, de secret, une vérité malaisément accessible. Il termine en disant, et c'est superbe, il désigne aussi l'initié qui sait, mais se tait. Le cardinal Saliège ramène l'attention à un petit nombre de points essentiels qu'il présente sous forme de maximes d'action, là, presque efficaces déjà, hein. Il y a une impression de vérité, de droiture, de vigueur et d'authenticité, de vision directe des choses. Quel homme admirable! Tout ça, ça se dégageait de ses lettres, de ses propos, hein. Il aime parler du silence, puis il le dit avec tellement d'intelligence. Il parle de joie, de croix aussi. Il donne à ces trois mots si usés des résonances neuves. Sa spiritualité, ajoute Jean Guiton, était d'une extrême simplicité. Il simplifiait pour atteindre l'essentiel. Tel est le secret de sa jeunesse, le style de l'homme et l'expérience du mystique. Sa manière spirituelle, ajoute Jean Guiton, ressemblait à sa manière d'écrire, biffer les mots inutiles et passer à la ligne. Il l'a traduite dans une formule qui résume sa vie et son témoignage, et je vous rappelle qu'il est devenu paralysé. Écoutez bien ces trois lignes du cardinal Saliège. J'aimais parler et Dieu m'a pris ma langue. J'aimais marcher et Dieu m'a pris mes jambes. Il peut tout prendre, je lui ai tout donné. Il peut tout prendre, je lui ai tout donné. Cardinal Saliège a eu une doctrine spirituelle, très difficile de le contester, et que cette doctrine se soit maintenue intacte d'un bout à l'autre de son existence, cela, non plus on ne peut pas en douter. Voici ce que Mgr Saliège dit de la spiritualité au moment où il a 70 ans. Il sera cardinal, en fait, à 76 ans. La spiritualité n'est pas une collection de petites recettes qui entravent. Elle n'est pas un sentimentalisme ingénu qui ne résiste pas à l'épreuve de la vie. La spiritualité n'est pas une vague confiture qui perd toute vertu quand le sucre disparaît et quand les dents poussent. La spiritualité est la connaissance vivante, c'est-à-dire priée et vécue du dogme chrétien. De ces retraites, on passe aux examens particuliers et aux lettres si riches, si drues, dans ce livre paru, n'est-ce pas, en 1960, écrit spirituel. Comment ne pas retrouver à travers, on pourrait dire, la spontanéité de cet homme, puis la vivacité de ses messages, la même pensée, la même doctrine qui coule plus austère dans les sermons de retraite, peut-être. Le prédicateur se revêt de Saint-Ignace chez le cardinal Saliège. Puis le correspondant, dont il écrit ses lettres, prend le ton de Sainte-Thérèse. Mais sous le prédicateur comme sous le correspondant, c'est bien le même homme, le cardinal Saliège, puis le même enseignement. Les lettres, par leur liberté puis leur abandon voulu, là, elles offrent la transition la plus heureuse, la plus éclairante vers les leçons brèves et percutantes, vers la brusquerie littéraire des menus propos, dit Mgr Garonne, son successeur. Et quelle est donc cette doctrine spirituelle? Mais ce qui frappe d'abord, c'est l'équilibre, la maîtrise infaillible, qui tient cet enseignement à distance des écueils. Il n'y a jamais de froideur chez le cardinal Saliège, et jamais de sentiments non plus, je dirais de sentiments sentimentaux. Jamais d'abstraction non plus. Et jamais de moralisme, hein. Faut le faire. C'est rare. À aucun moment, la pensée du cardinal Saliège ne s'écoule en développement qui rappelle le livre et la théorie. Jamais, jamais, par ailleurs, ses leçons ne sentent le professeur. Avec ce qu'un tel mot signifie de froideur, de distance et d'inhumanité. Non, jamais. Il a une grâce particulière, je l'envie, hein. Tout est vivant chez lui, d'une vie qui ne s'achète pas avec la fausse monnaie du sentiment. Non, cela vit de soi-même. Si l'on est ému quand on l'entend, quand on le lit, c'est au contact de la vérité, et non simplement au contact d'une émotion contagieuse. Une telle sûreté, conquise, c'est sûr, mais devenue si naturelle, est incontestablement la marque du maître. Mais c'est toujours tout ça l'extérieur. Quelle est la spiritualité de cet homme? Mais l'admirable ouverture du cardinal Saliège à tous les courants d'idées rafraîchissantes, là, à tout ce qui bouscule les routines, sa puissance d'accueil et d'assimilation pourrait le faire paraître éclectique. Au dernier temps de sa vie, pour saisir l'auditeur, il cherche à l'étonner en lui donnant toujours l'impression du jamais vu. Sa doctrine risque de s'estomper parfois. Et en effet, pour que se révèle la doctrine incluse dans certains de ses propos ou textes analogues, il faut accepter de suivre le cardinal, qui est très audacieux. Son enseignement, dans son ensemble, est peu commun. Il y a deux courants chez lui. Le premier est dogmatique. Il se caractérise par un appel constant au mystère trinitaire, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, par son épanouissement dans le corps mystique. On reste frappé, d'ailleurs en particulier, de la fermeté que présente dans la pensée puis la langue du cardinal Saliège le profil théologique du Christ, car il est toujours centré sur Jésus-Christ. Par exemple, jamais le Christ n'intervient sans recevoir toute sa densité, dogmatique de verbe incarné, car le Christ pour lui n'est pas qu'un homme. Il y a toujours, quand il parle du Christ, sa relation, sa référence à Dieu notre Père, à Dieu Père. Nous nous demanderons peut-être à quoi le cardinal est redevable de cette orientation. Bon, je la relève, mais elle compose avec une autre morale, celle-là, c'est la fidélité stricte à la ligne de Saint-Ignace de Loyola. Il a vécu les grands exercices des 30 jours. Il est habitué des exercices de 8 jours, des exercices de Saint-Ignace, qu'on peut suivre, hein, à Saint-Jérôme, et je crois aussi à Montréal. Il est initié authentiquement à l'esprit de la compagnie de Jésus, des Jésuites, par son appartenance à la société du cœur de Jésus qu'a fondé le père de Clorivière, dont je vous ai déjà parlé. Alors le cardinal Saliège a conçu la formation morale très expressément suivant cette rude et dure discipline, je dirais, jésuite. Il l'a gardée personnellement. Il a voulu la faire passer. Et il y a chez lui de la rigueur et de la sûreté. Il se plie, comme directeur de retraite, au mouvement puis aux consignes de ce grand maître des exercices qui est Saint-Ignace de Loyola. Cela fait corps avec lui-même. Et une fois reconnu ces deux courants profonds, quelques autres influences restent discernables, quelques préférences spirituelles. Parmi les influences les plus notables, il y a celle de l'école française, je vous l'ai dit, c'est un élève de Saint-Sulpice qui s'en est imprégné au jour le jour, à travers les maîtres, à travers les usages, le vocabulaire du grand séminaire, à travers la méthode de raison aussi, dont on lui enseigne la discipline, beaucoup plus qu'à travers des livres, dont un petit nombre d'ailleurs sont accessibles. Alors c'est le thème du religieux de Dieu est puissamment orchestré chez lui, hein, et le thème du Verbe incarné, Jésus, Verbe incarné présent avec toutes les racines que le dogme nous enseigne, cela qui est essentiel à l'enseignement du cardinal, ça ne peut pas tromper. Nous penserions volontiers peut-être que la formation qu'il a reçue à Saint-Sulpice, chez les Sulpiciens, et donc aussi l'imprégnation dans son cœur là, de l'école française, ont pu créer en lui une disposition, un sens, qui ont orienté ses choix, puis en particulier lui ont valu cette préférence si forte pour Saint-Paul. Ça l'a garanti contre tout appauvrissement doctrinal. Hein. L'école française, qui est une très grande école de spiritualité, lui a certainement appris l'adoration, en donnant à ce mot sa signification la plus profonde et la plus précise. Il en a le goût et même la passion. Le cardinal Saliège, toute sa vie, cherche de toutes ses forces à les communiquer. Mais cela en liaison étroite et constante avec les conditions concrètes de la vie personnelle et apostolique, telles que saint Ignace les accepte. Il les définit si fortement, hein? Saint Ignace est un maître pour définir tout ça. Une personnalité donc exceptionnelle, par son intelligence et sa vigueur spirituelle, que le cardinal Saliège. Tous les éléments invoqués ont contribué à le former ou lui ont fourni sa règle. Mais l'unité de tout cela est un don de la grâce et de la nature. Des qualités innées, une faveur bien utilisée, d'une vie d'oraison, une vie d'oraison inlassablement poursuivie. Tous les jours. Et à partir de là, toutes les lumières pouvaient être reçues, hein? Toutes les influences complémentaires captées sans rompre l'équilibre. Le cardinal Garonne ajoute, en parlant de son prédécesseur, le cardinal Saliège, « La puissance d'accueil n'a cessé d'être un trait essentiel de cette pensée du cardinal Saliège, mais aucun élément ainsi reçu ne pouvait en altérer l'équilibre profond. » J'ai trouvé un petit texte de lui, cardinal Saliège, qui est très sympathique, je vous le lis. C'est humain. Tout le monde dit ça, hein, c'est humain, c'est humain. Alors il écrit, ce mot, c'est humain, légitime tout. On divorce, c'est humain. On boit, c'est humain. On fait jouer du piston dans les examens, dans les concours, c'est humain. On gâche sa jeunesse dans le vice, c'est humain. On sabote sa besogne, son travail, c'est humain. On est jaloux, bah, c'est humain. On calomnie, c'est humain. On détourne, somme on vole, c'est humain. Il n'y a pas de vice qui ne soit absous par cette formule, c'est humain, bah, c'est humain. De sorte que, par l'abus de langage, le mot « humain » signifie ce qu'il y a de plus bas dans l'homme, de plus grossier, de plus abject. « Humain » devient synonyme de l'animalité. Abus de langage étrange, car l'homme n'est homme que par ce qui le sépare de la bête. Choses humaines, deux points, l'intelligence, le cœur, la volonté, la moralité, la sainteté, ça c'est de l'humain et du vrai. Voilà comment le cardinal Saliège pouvait parler. Il dit aussi à un moment donné, oui, donner du surnaturel, de la doctrine, il demande à ses prêtres de donner du surnaturel aux fidèles, de la doctrine à vos petits, et non pas seulement un vague théisme, Dieu créateur, et c'est tout. Mais où est l'Évangile quand on ne parle que de Dieu créateur? Alors oui, donnez du surnaturel, de la doctrine à vos petits, et non pas seulement un vague théisme. C'est l'Évangile, c'est saint Paul, c'est saint Jean qu'il faut leur faire connaître, et aussi ceux qui en ont vécu, les saints. Il faut leur faire comprendre le rôle magnifique de la sainteté dans le monde et dans l'Église. Et aussi que les destinées du corps mystique sont en quelque sorte entre nos mains. Leur donner le goût, leur inspirer le désir de devenir les collaborateurs de Dieu, de travailler et de se sanctifier à cet effet. Et le cardinal Saliège termine en disant, n'oubliez pas aussi de leur recommander fortement les qualités et vertus humaines, loyauté, politesse, etc., et de leur dire que le chrétien fera valoir l'homme et que l'homme fera valoir le chrétien. Il a beaucoup parlé de la sainteté aussi. Je vous en lis des extraits. Vous n'êtes pas fait, dit le cardinal Saliège, pour la médiocrité. Dieu le sait. Vous êtes fait, comme tant d'autres, pour l'union divine. Une seule pensée, une seule volonté, un seul désir avec notre Seigneur. L'expérience vous a montré que l'œuvre était ardue. Dire oui à notre Seigneur impose de dire non au moi. Vous avez senti la lutte en vous, et que vous étiez un être divisé. La division était plus profonde que vous ne le pensiez, les puissances ennemies plus fortes que vous ne le supposiez. Vous étiez bien parti, confiant en vous, en votre étoile, en la beauté littéraire plus que la pensée vous attirait. Sous prétexte d'esthétique, je soupçonne que vous avez fait des lectures révélatrices de psychologie. Vous désirez plaire et paraître. C'est tendance plus que volonté. Vous vous êtes répandu. Comme en lecture, vous vous êtes dispersé. Nourrir une tendance d'égoïsme, c'est nourrir l'égoïsme sous toutes ses formes. Chercher à jouir de sa foi, de sa piété, c'est une forme de sensualité. Il y a une tradition de sainteté. Sans vouloir, assurément, peut-être, sans en avoir conscience, vous aspirez au rôle de novateur, vous faire saint tout seul. La sanctification personnelle est œuvre sociale. On ne se crée pas du jour au lendemain un esprit de prière. L'esprit de prière suppose un immense désir, une grande humilité, une invincible confiance en Dieu. Prier, c'est vivre dans l'invisible. Où est votre cœur? Où est votre cœur? C'était le cardinal Saliège, qui ne se gêne pas pour parler directement. Oh, j'aurais pu vous lire toutes sortes d'autres choses. C'est tellement beau ce qu'il écrit. Si vous pouvez mettre la main dans des bibliothèques sur ses écrits spirituels ou sur cette belle vie de Jean Guiton, tous deux parus chez Grasset en 1957 et 1960, vous serez aux oiseaux, comme on dit. C'est merveilleux, c'est merveilleux.